parler du jeu de rôle Medium Meta.
Ok. Ben déjà. Bonjour tout le monde, merci d'être venu assister à cette conférence, donc sur le, cette fois du coup donc sur le méta dans le jeu de rôle, ou pour être plus précis, ce serait la métafiction. Donc on va commencer par quelques définitions assez rapides, histoire de poser un petit peu le sujet, mais je vais essayer de basculer assez rapidement ensuite derrière sur des exemples un petit peu plus, on va dire... funky, tout de suite, je vais quand même commencer par une introduction, c'est-à-dire qu'est-ce que j'entends en fait par méta. Et le plus simple quand on pense à une définition, bah, c'est de commencer par une définition, on va dire, de type dictionnaire, qui sera très courte du coup. Le méta, du coup, donc c'est un préfixe grec qui veut dire après, au-delà de ou avec, et qui est souvent utilisé, on va dire, dans divers domaines, notamment la linguistique. Pour dire qui parle d'eux ou qui parle de lui-même. C'est-à-dire que si on parle de méta dans le cadre du cinéma, ce sera du cinéma qui parle de cinéma, ou dans le cadre du jeu de rôle, ce serait du jeu de rôle qui parle de jeu de rôle, on va dire, en quelque sorte. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça, d'où une définition peut-être un petit peu plus précise, notamment le fait que, donc moi j'ai écrit quelques articles finalement sur mon blog qui parlaient de métafiction, et j'ai aussi trouvé dans mes recherches le terme métatexte, et je me suis demandé si j'avais pas utilisé de façon impropre en fait en quelque sorte un terme, donc j'ai regardé les définitions des deux. Métatexte, j'ai trouvé une définition en fait de Gérard Genette qui dit qu'en gros la dimension métatextuelle d'un texte, c'est en fait la relation de commentaire qu'il entretient avec d'autres textes. Pour prendre des exemples, un exemple simple, c'est il définit par exemple une critique de roman ou de film, bah c'est quelque chose de méta parce que ça parle d'autre chose en fait. Donc Laurent Le Paludier, une fiction, elle, est dite donc de métatextuelle, en fait, à partir du moment où il y a une espèce de prise de conscience critique, c'est-à-dire qu'en fait, en quelque sorte, la fiction elle-même attire l'attention sur le caractère qu'on pourrait appeler fabriqué, finalement, de la fiction elle-même. C'est-à-dire qu'au lieu de miser à fond sur l'immersion fictionnelle, donc de nous embarquer dans l'histoire, de nous faire oublier notre quotidien, etc., cette fiction en question, en fait, à divers moments, elle va dire « Oubliez pas, ce que vous êtes en train de regarder, ou de lire, ou d'écouter, c'est pas la réalité, ça prétend pas être une réalité, c'est en fait quelque chose de fabriqué, c'est un artifice, en fait, créé par quelqu'un. » Donc là, on s'oppose en quelque sorte, on brise en quelque sorte ce qu'on appelle la suspension d'incrédulité volontaire, qui est un terme notamment qui avait été plus ou moins défini par Coleridge en 1817, et qui veut qu'en fait, bon bah, quand on s'immerge dans une fiction, en fait, il y a une espèce d'acte volontaire d'oubli de soi, d'oubli de sa réalité, et on prend pour réel en fait, en quelque sorte, la fiction, on l'accepte, même si on n'est pas fou, normalement, on sait faire la différence quand même entre une fiction et la réalité. Cette métatextualité, en fait, elle est en quelque sorte, elle est à moitié une stratégie de l'auteur, c'est-à-dire que l'auteur peut vouloir péter cette illusion, peut vouloir dévoiler les artifices, etc. Et elle est aussi en partie liée au lecteur, à l'auditeur ou aux participants du jeu. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un, un récepteur pour, si l'auteur fait des références un peu, genre des blagues privées pour essayer de casser l'immersion, si le lecteur les voit pas, enfin le lecteur ou peu importe, le public le voit pas, ça n'existe pas. À l'inverse, on peut imaginer un lecteur ou un public qui va en créer là où l'auteur avait jamais pensé en mettre. Voilà. J'en arrive au terme métafiction, lui, donc qui a été mis en place apparemment par William Gass en 1971 pour parler de fiction appelée, qualifiée d'anti-roman. Alors, bon, là, je m'aventurerai pas trop là-dedans parce que je suis pas un spécialiste là-dessus, mais ça s'appliquait notamment au roman de Georges-Louis Borges, si je prononce bien. J'avoue en avoir peut-être lu un ou deux de lui, mais voilà, il y avait l'idée quelque part de casser cette espèce de d'illusion, encore une fois, référentielle, en fait. Du coup, très simplement, il est établi que est appelée métafiction, en fait, une fiction qui comporte une relation métatextuelle, c'est-à-dire qui va soit parler d'autres fictions, c'est-à-dire commencer à casser des codes de fiction, pas forcément celle de lui-même, comme on va le voir, c'est-à-dire un roman peut par exemple casser les codes du cinéma, le cinéma peut casser les codes du roman, le jeu de rôle peut casser les codes du cinéma, il faut que ce soit de la fiction qui attire l'attention en fait sur la fabrication, finalement, le caractère fabriqué de la fiction elle-même. Je vous donne, du coup, j'ai pensé à donner quand même quelques exemples tirés non pas du coup de jeu de rôle, et je vais venir justement après au jeu de rôle, mais cette fois de littérature et de cinéma. Donc, dont par exemple dénoncer directement la nature de la fiction. Par exemple, alors j'ai pris un exemple qui m'a choqué dans ma jeunesse, qui était les 12 travaux d'Astérix, c'est-à-dire qu'à la fin, ils ont triomphé et Obélix demande à Astérix, mais alors du coup, on a gagné, on est vraiment les maîtres de Rome, et l'autre lui dit, Astérix lui dit, bah écoute, c'est qu'un dessin animé, après tout, tout est permis. Ce qui est en soi étrange dans un dessin animé qui, bon, quoique il y a peut-être d'autres éléments qui pourraient être évoqués comme métafictionnels, mais voilà, là, clairement, on n'est pas dans la réalité, on est dans un dessin animé. On a aussi, par exemple, le personnage qui s'adresse directement au spectateur, donc j'ai mis quelques exemples, comme La Folle Journée de Ferris Bueller. On a aussi un personnage qui écrit un roman ou réalise un film. Donc, dans le roman Misery, on a un personnage qui écrit un roman. Dans le film La Nuit Américaine, on a une équipe qui réalise un film. On peut attaquer directement les conventions. Alors, La Dernière Licorne, je m'en souviens plus exactement, mais je sais que ça parlait notamment de ça. Mais Scream, par exemple, je pense que beaucoup s'en souviennent. On a des personnages qui parlent des codes du genre du cinéma d'horreur et qui vont ensuite être appliqués au film lui-même, quoi. L'auteur peut aussi être un personnage lui-même, comme dans Les Désastreuses Aventures des Orphelins à Bonheur. On peut avoir carrément, alors là c'est plus subtil, le film par exemple qui évoque le processus cinématographique. Dans Fenêtre sur cour, on a un personnage qui est en fauteuil roulant et qui contemple par le biais de jumelles en fait des meurtres qui ont lieu, comme le spectateur lui-même dans la salle est impuissant et assis dans son fauteuil et contemple des meurtres et donc a envie peut-être, on va dire s'il est un peu sensible, d'empêcher les meurtres, mais il peut rien faire parce qu'il est impuissant. Et on a aussi les fictions à l'intérieur de la fiction. Donc L'Histoire sans fin et Princess Bride sont un peu spécialisés là-dedans. J'ai mis aussi un épisode de la série animée Avatar où d'un coup, ils assistent à une représentation théâtrale qui reproduit leurs propres aventures qui ont eu lieu dans les saisons précédentes. Une espèce comme ça de mise en abîme du processus. Voilà. Donc, très rapidement, on peut se demander pourquoi cette espèce de métafiction s'est développée dans la deuxième partie du XXe siècle. Il y a plusieurs théories. Est-ce qu'il y en a une qui est juste ou pas? Est-ce que c'est un phénomène récent? On peut se dire que parce qu'on est dans une époque où il y a un très très grand nombre de fictions, on a eu une espèce de recul un peu et on a ressenti le besoin un petit peu de prendre nos distances. On peut aussi dire que c'est quelque chose de pas aussi récent et qu'il y en a qui évoquent notamment Platon, qui dès le départ évoquait sa méfiance à l'égard de la fiction. Il disait que justement le problème de la fiction, c'est que ça manipulait les sentiments. Donc soit il fallait s'en méfier énormément et éviter justement cette espèce de mélange entre la réalité et l'imaginaire, soit utiliser cette manipulation à des fins, par exemple éducatives, s'en servir, retourner les armes en fait quelque sorte de l'ennemi contre lui-même. Voilà. Toujours est-il qu'il y a l'idée quelque part qu'on aime se sentir plus malin que la fiction, on aime casser un petit peu les codes, on aime montrer qu'on n'est pas dupe de l'illusion fictionnelle et qu'on est toujours plus malin que ça. Voilà pour l'introduction hors jeu de rôle. Maintenant, j'en arrive justement au jeu de rôle en lui-même. Donc, voilà, le méta dans le jeu de rôle. Donc, j'ai posé juste quatre axiomes qui me paraissent importants pour ma présentation que je vais appliquer, du coup. Donc, pour moi, le texte, c'est-à-dire dans le sens de ce qui va être étudié pour analyser le méta, c'est la partie de jeu de rôle elle-même. C'est pas le livre de jeu de rôle, même si on verra qu'il y a quelques éléments qui peuvent s'y raccrocher. Pour moi, ce qui est intéressant d'analyser aussi ici, c'est ce qui va se passer pendant la partie et pas ce qui est dit dans le jeu, même si le manuel, lui, il est juste là pour donner quelques indications. Après, est-ce que le manuel sera utilisé ou pas, on n'en sait rien. Il peut encourager effectivement le développement de la partie méta, mais si cette partie-là est ensuite oubliée pendant la partie de jeu, où je me méfie avec l'utilisation du mot partie, qui a plusieurs connotations. Voilà. Ce qui compte, c'est ce qu'on joue et uniquement ce qu'on joue. Ensuite, pour moi, une partie, ça produit de la fiction pendant la partie, et une fois que la partie est terminée, si on regarde en arrière, on a produit quelque part une fiction. Et ce, même quand la fiction n'est pas forcément, on va dire, l'élément au cœur du moment. Par exemple, imaginons que dans un jeu commun, type Donjons et Dragons ou n'importe quel jeu, vous jetez des dés pour voir si vous touchez l'adversaire, vous faites un critique, ou peu importe, vous réussissez. Même si vous décrivez rien, quelque part, il y a de la fiction qui se crée. Vous avez effectivement mis un coup d'épée, vous avez effectivement touché ou raté la personne, vous avez effectivement fait des dégâts. Il y a quand même de la fiction qui s'en dégage, peu importe vraiment comment ça s'est manifesté, en fait, sur le moment. Une partie, je le dis, donc, c'est tout ce qui est dit et fait. Et là, je suis un petit peu les idées d'Olivier Caïra, notamment. qui est que ce qui est intéressant dans la partie, c'est vraiment tout, y compris les remarques qui n'ont pas l'air d'être directement dans la fiction. Donc je pars du principe qu'on commence à peu près au moment où on dit bon, ok, on joue maintenant, et qu'on arrête à partir du moment où on dit bon, on a fait une bonne partie, on arrête là. Même si on pourrait pousser un petit peu avant et un petit peu après, ça permet de poser des bases. Et enfin, une distinction que je fais entre métafiction et méta-jeu. Souvent, quand on dit méta en jeu de rôle, on ne sait pas trop si on parle de méta, genre des gens qui parlent de la fiction pendant la partie, ou si on parle de méta-jeu, c'est-à-dire ah oui, mais il connaît les règles, donc il a optimisé son truc de façon à bien réussir son coup, etc. Les deux sont pas complètement séparés. On peut pas les séparer complètement, mais il y a des zones, comment dire, qui sont pas extrêmement, qui correspondent pas exactement. Je pars du principe que ce qui est métafictionnel, c'est ce qui a pour horizon la fiction, c'est-à-dire ce qui va parler de la fiction, alors que le métajeu, c'est ce qui pense surtout à l'aspect jeu, c'est-à-dire gagner en quelque sorte, réussir ses actions, etc. Voilà. Ça, c'est en gros les quatre axiomes sur lesquels je vais me baser. Une première façon d'aborder le méta en jeu de rôle, c'est de le faire comme je l'ai fait auparavant pour le cinéma et le roman. C'est-à-dire que on a ça qui correspond à peu près, qui serait une espèce de symétrie de ce que j'ai mis auparavant. Des exemples de métafiction, ce que j'ai appelé visible, bon, c'est pas un terme particulièrement précis, mais en gros, de jeu de rôle qui parlerait soit d'un autre type de fiction, soit qui dénoncerait ses propres, on va dire, mécanismes, soit qui parlerait de lui-même. Donc j'ai pris des exemples. Donc effectivement, par exemple, on a le jeu de rôle qui parle du tournage d'un film. Donc c'est le cas dans Bimbo et dans Brain Salad, et sans doute dans d'autres jeux. Je crois qu'il y avait un jeu qui s'appelait, enfin, sur un jeu d'action américain, où pareil, on avait des petits effets pour montrer que on n'était pas dans une fiction d'action, mais dans un film d'action. Avec des trucs genre, bah, si t'es le chouchou du réalisateur, t'auras des bonus, ou des trucs comme ça. Là, on sort déjà quelque part de la simple fiction, on va dire, dans laquelle on s'immergerait. On a aussi des personnages qui font une partie de jeu de rôle. Donc, on voit ça dans Birds, que je connais pas énormément, mais aussi dans Sens Néant de Romaric Brillant, où pour explorer finalement le passé de leur univers, les personnages vont jouer une partie de jeu de rôle eux-mêmes, en étant joués par les joueurs de la partie de jeu de rôle. Une espèce de mise en abîme comme ça. On a le jeu qui exhibe les conventions d'un type de JDR. Alors, c'est un peu plus rare, mais Nahulbuck, par exemple, et Hackmaster sont des parodies, en gros, de Donjons et Dragons, et intègrent là-dedans deux, trois mécanismes qui relèvent moins de la fiction que bah, de vieilles habitudes de rôlisme dont on se moquerait et qu'on mettrait en avant. On a aussi, alors, un cas un peu particulier, Mazes and Minotaurs, qui dit, voilà ce qui se passerait, voilà ce que serait Donjons et Dragons si Gary Gygax s'était inspiré non pas du Seigneur des Anneaux, mais de l'Iliade et de l'Odyssée. Donc là, on renverse un petit peu. C'est un peu plus discret comme truc, mais voilà, il y a quand même ce parti pris, au lieu de juste dire, bon, bah, on fait un truc qui imite Donjons et Dragons, mais au pays des Minotaures, on prétend que c'est le premier jeu de rôle qui a été créé, et sauf que les références sont différentes. On a aussi un jeu de rôle où les joueurs se jouent eux-mêmes. Il me semble que Superclic, c'est son principe, en tout cas ça a été le cas quand j'y ai joué. C'est-à-dire qu'on commence la partie, ben, les joueurs, on se joue soi-même dans la partie, sauf qu'on est un super-héros en secret, et on doit quitter la table de jeu. Enfin, les joueurs ne quittent pas la table de jeu, mais les PJ quittent la table de jeu pour aller se mettre leur costume, parce qu'il y a un truc qui se passe ailleurs, et ils vont faire ça. Et j'ai pas trouvé d'exemple de jeu où les personnages chercheraient à écrire cette fois un jeu de rôle. Après tout, on pourrait imaginer. Mais voilà, voilà quelques exemples. Pour le reste de la présentation, donc ça c'est une partie du méta, moi ce qui m'intéresse c'est en quoi est-ce que le jeu de rôle en fait est encore plus méta que les autres types de fiction, même si on pourrait en extirper d'autres éléments, y compris dans n'importe quel jeu, c'est-à-dire un jeu qui ne cherche pas spécialement à casser les codes de la fiction, à casser l'immersion fictionnelle. Du coup, j'en arrive à la première idée du pourquoi en fait. L'idée que, alors, les rôlistes, en fait, quand on fait une partie de jeu de rôle, on la fait pour nous, on la fait généralement pas pour un public, même si ça peut arriver, mais c'est pas, en tout cas, l'essence du jeu n'est pas tournée vers l'extérieur. Donc, on est à la fois en tant que joueur, j'ai mis un pool de scénaristes, mais en fait, c'est plutôt des créateurs, c'est-à-dire des personnes qui vont réfléchir à la fiction, qui vont essayer de se mettre d'accord pour aller dans un sens à peu près commun. Si tout le monde part dans tous les sens, globalement, on va se retrouver à pas savoir quoi faire. S'il y a un joueur qui dit non, moi, je veux pas faire le donjon et je me barre dans l'autre sens, un autre qui dit oui, je veux faire le donjon, mais je vais partir dans ce sens-là. Un autre qui dit non, moi j'ai plutôt envie d'avoir une relation amoureuse avec tel personnage, etc. Bon, ça va plus ressembler à rien. Donc il faut qu'on arrive à se mettre d'accord sur la direction. Il faut qu'on se comprenne. Il faut que quand on soit dans un endroit, bah, tout le monde ait à peu près une vision à peu près similaire de avec qui on interagit, comment, dans quel lieu. Voilà. Donc pour ça transforme un petit peu la partie de jeu de rôle en une espèce de brainstorm ou si je reprends la théorie de Romaric Briand, de Maelstrom, où les idées en fait bouent un petit peu, se répondent, etc. Un petit peu justement, c'est pour ça que j'emploie le pool de scénaristes, même si on n'est pas censé prévoir jusqu'au bout comment l'intrigue doit se passer, on est quand même en train de discuter de comment la fiction se déroule et comment faire au mieux. Mais on est aussi des spectateurs, c'est-à-dire qu'on a aussi envie de s'immerger dans la fiction, on a aussi envie que ça ressemble à quelque chose, et on n'a pas envie de voir des gens discuter de comment ce serait bien que si jamais toi, tu partais dans cette direction, et puis on pourrait imaginer qu'après, il y aurait, on s'en fout, on a envie que ça se passe maintenant, on a aussi, on est comme le spectateur de cinéma ou le lecteur de roman, on n'a pas envie que le romancier vienne nous expliquer ce qui va se passer ensuite, on a envie qu'il nous le montre, qu'il nous dépeigne l'histoire. Voilà. Donc pour moi, il y a cette espèce de double axe, en fait, créateur, récepteur, en fait, qui fait que il y a déjà une problématique de, justement, de méta, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on communique, en fait, pour se mettre d'accord et comment est-ce qu'on communique pour aller dans la même direction, alors qu'en même temps, on a envie de vivre le truc, quoi. Bon, il y a d'autres explications possibles, par exemple le fait qu'on improvise en permanence, et ce qui fait que c'est plus compliqué et qu'on est fréquemment obligé de se remettre d'accord. On a aussi peut-être le problème de l'intimité. Alors, est-ce que parce que le jeu de rôle, quelque part, nous met en petit comité, on doit dévoiler des éléments, on doit créer, il y a de la tension, ce qui fait qu'on a peut-être tendance aussi à prendre un petit peu plus de recul parfois et à désamorcer un petit peu les trucs pour pas non plus trop, comment dire, trop se dévoiler ou trop s'immerger. J'en sais rien, ça c'est des pistes, mais voilà, j'ai pas de réponse. Toujours est-il que le méta, c'est pas un truc en mode on-off, c'est-à-dire que c'est pas je balance une phrase complètement méta et puis après je fais une phrase complètement fiction et puis ensuite je fais autre chose. Non, c'est plutôt une histoire de marqueur, c'est-à-dire il y a des éléments qui nous renvoient à l'idée que c'est qu'une partie de jeu de rôle et que c'est pas une réalité, que c'est même pas encore un film qui nous immergerait ou des choses comme ça. J'en arrive du coup à ces aux marqueurs en question. Donc, j'en ai établi une liste, mais est-ce que c'est exhaustif? Je n'irai pas jusque-là, mais j'ai essayé d'en trouver le maximum. Donc, premier marqueur qui m'est venu à l'idée, c'est la mécanique de jeu. C'est à peu près, il y a beaucoup de gens qui disent on jette trop de dés à tel moment, je suis sorti de l'histoire parce qu'il a fallu faire des calculs, etc. Tout ça, c'est quelque part complètement artificiel. Ça nous sort de la pure immersion. On est obligé de discuter, souvent on sort complètement du personnage le temps de ça, on est obligé de réexpliquer des points de règle qui ont été oubliés. Même si on produit de la fiction, il y a quand même une dimension méta là-dedans quand même assez importante qui casse en fait quelque part donc cette illusion. On a un petit peu l'impression des fois que le jeu de rôle prend plaisir à prendre les atomes de fiction, à les casser, à regarder ce qu'il y a derrière et à voir quelles sont les règles en fait qui se cachent dessous. Donc on a eu toute une phase de jeu de rôle qui voulait dépeindre ça comme de la réalité, avec des trucs physiques, etc. On a eu aussi des jeux de rôle qui partaient du principe que non, le jeu de rôle n'était pas là pour dépeindre une réalité, mais pour dépeindre un genre. Donc il y a eu, par exemple, Spirit of the Century qui dépeignait des jeux pulp. Donc il y avait des règles pour expliquer comment rendre au mieux un jeu pulp, etc. On a aussi, de façon évidente, ce qui se passe autour de la table. Le fameux coup du... Moi, je joue pas d'histoire d'amour où les hommes ou les qui jouent des femmes et les femmes qui jouent des hommes, bof, parce que bon, avoir un barbu en face de moi qui joue une princesse, ça me casse mon immersion. Voilà, on a toujours en face de nous les acteurs en question qui n'ont pas été castés spécialement pour le rôle, contrairement au cinéma. On n'a pas, comme en roman, la possibilité de vraiment être complètement immergé juste dans les mots. On a quand même les visages des gens, on a les voix. On a les dés qui sont en face de nous, on a la table, on a les pépitos ou j'en sais rien. Là où le cinéma, par exemple, on nous fout dans une salle, on nous fout dans le noir, le film se déroule, on est complètement happé, on a tendance à oublier un peu son corps et le reste des choses, quoi. On a aussi, évidemment, c'est les joueurs qui peuvent parler entre eux, ce genre de choses. Autre marqueur, le mot personnage. Dès lors qu'on emploie le mot personnage, qu'est-ce qui fait ton personnage? Qu'est-ce que vos personnages font pendant ce temps? Personnage, c'est pas du réel. On est tout de suite dans de la fiction et clairement qui exhibe le fait que c'est de la fiction. On a aussi la forme interrogative. Par exemple, qu'est-ce que vous faites? Là, on n'est plus dans l'action, on n'est plus dans la description, on est déjà dans la question. Bon, réfléchissez à la fiction, réfléchissez à ce que vous allez faire. Il y a aussi la forme négative. Par exemple, t'es sûr que tu fais ça? Là, on arrête la fiction, on met une pause, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu fais. Il peut y avoir plein d'autres versions. Il y a aussi, j'avais mis la combo personnage plus négatif, ton personnage, il ne ferait jamais ça. Ou un samouraï, ça ne ferait jamais ça. Ceux qui ont joué à Légende des Cinq Anneaux savent ce que ça implique, ce genre de situation. On a le commentaire hors jeu, qui peut être désagréable ou au contraire tout à fait positif, genre oh, c'était trop cool, yes, 20 nattes, ou des trucs comme ça, quoi. C'est, on est dans clairement dans le hors jeu, même si ça parle de la fiction toujours, on n'est plus, on n'est pas complètement à l'extérieur, quoi. J'ai mis la blague métafictionnelle, c'est-à-dire, alors j'en parlerai un petit peu plus tard, je pense, donc je vais éviter de trop détailler dessus, sinon je vais me répéter. Mais c'est en gros une blague qui a un rapport avec la fiction. Tout simplement. On fait une plaisanterie, on fait des inférences, c'est-à-dire on se projette dans l'avenir et on fait une blague qui a un rapport avec la fiction, mais je vais revenir dessus sur la fin. Le bris de cohérence fictionnelle, c'est-à-dire bah, tout simplement quand la cohérence elle est cassée, parce qu'il y a eu une erreur, ou parce qu'on se rend compte qu'il y a un truc qui va pas, on a oublié, on revient en arrière. Ça peut aussi correspondre, là ici on peut avoir du méta-jeu, par exemple un joueur qui importe des connaissances qu'il a du monde réel dans le jeu, alors que lui-même, son personnage n'est pas censé les avoir. J'avais un exemple, c'était à Agon, j'avais un ami qui tenait absolument, donc il jouait un nain, donc Agon c'est une espèce d'univers médiéval fantastique, merveilleux, un peu poétique, et un ami, je sais pas, il avait vu un documentaire sur les Incas, je crois, un mois avant, et il avait vu que les Incas utilisaient comme technique le fait qu'ils enflammaient des cochons et les envoyaient sur leurs ennemis pour les vaincre. Qui est une technique, pourquoi pas, après tout, son nain aurait pu dire, hey, j'ai une idée, on va prendre des cochons, on leur fout le feu et on les balance sur les ennemis. Sauf que lui, il tenait absolument à nous dire, ouais, les Incas, ils faisaient ça, les Incas n'existent pas dans Agon. Je lui disais, ouais, mais attends, tu nous pètes l'immersion. Non, mais je vous jure, les Incas, ils faisaient ça, je l'ai vu dans le documentaire. Oui, mais c'est pas le problème qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est que tu nous sors du jeu. Oui, mais les Incas, bon, voilà. Donc ça sort du jeu quelque part et ça casse complètement l'immersion. Et l'exemple des personnages qui parlent de leur statut de personnage, alors là, pour le coup, c'est carrément super rare, mais ça arrive plutôt dans le type de fiction dont j'ai parlé juste avant, notamment, par exemple, dans Sens. Il y a beaucoup de jeux avec ça, justement, l'interrogation par les personnages de leur statut. Sont-ils vraiment des êtres, pas vivants, mais en tout cas uniques, ou est-ce qu'ils ne sont que des personnages dans une fiction ? Sens allant encore plus loin et allant jusqu'à critiquer, enfin, questionner la réalité elle-même derrière. Mais bon. Du coup, comme tout ça, on a tendance à dire que Platon lui-même en fait le disait, c'est-à-dire que on a besoin pour la fiction de s'immerger dedans, donc de s'oublier, etc. Donc le méta, quelque part, c'est considéré comme quelque chose qui va à l'encontre de cette immersion. Donc si Platon trouvait ça bien, en général, en jeu de rôle, on va avoir deux types de personnes. On va avoir, si je prends des extrêmes, hein, évidemment, les gens se situent plutôt au milieu, mais on va avoir des personnes qui vont dire « Ouais, mais le jeu de rôle, c'est plutôt sympa, je suis pas là pour me prendre la tête avec de la fiction, machin, je suis là pour m'amuser avec mes potes, j'ai mes bières, j'ai mes dés, bon, bah, on fait des hors-jeux tout le temps, des apartés, etc. » Je m'en fous. Et puis, il y a de l'autre côté, des personnes plutôt, on va dire, théâtrales au sens large, qui vont dire « Ah oui, mais moi, ça me casse le plaisir quand on commence à parler règles, quand on commence à faire des blagues en dehors, quand vous faites des remarques. Moi, j'ai envie, justement, de diminuer le méta et de d'étouffer au maximum. » Ce qui m'amène du coup à la partie suivante, jouer avec le méta plutôt qu'être le jeu du méta. Comment est-ce que on utilise ce méta pour essayer de faire quelque chose et de s'en servir pour aider en quelque sorte la partie, ou au contraire peut-être pour essayer de le restreindre le maximum pour qu'il la ferme pendant le reste du jeu, pendant qu'on s'amuse vraiment. Du coup, première solution, enfin première possibilité pour moi, c'est de concentrer le maximum de méta, fiction toujours, en amont. Donc, c'est ce qu'on fait à peu près tout le temps quand on commence par présenter le jeu. On va parler du jeu, on va essayer de donner le maximum d'infos d'abord. Souvent, on considère cette phase comme un truc pénible par lequel on est obligé de passer, parce que sinon, toutes les deux minutes, on va devoir s'arrêter à dire « Attends, il y a des elfes dans ton univers, mais tu ne l'avais pas dit. Attends, il y a de la magie, mais comment ça ? Elle n'est pas pareille que dans tel autre jeu. » Enfin, voilà. Donc là, on va commencer par ça. On va aussi avoir, du coup, l'explication des règles. C'est pareil, on est obligé de les expliquer maintenant. Souvent, hélas, parce qu'on a passé beaucoup de temps à expliquer l'univers, les gens commencent déjà, l'attention commence à baisser. Donc on va les expliquer un petit peu en cours de partie, mais ça va d'autant plus casser l'immersion, d'autant plus ralentir les choses. Sachant que, attention, un truc important avec les règles, c'est que dès l'explication des règles et dès l'explication du jeu, on commence déjà à avoir des éléments de méta, non seulement dans le « ok, on sait ce qu'on va jouer », mais aussi dans le « voilà ce à quoi vous pouvez vous attendre dans la partie ». Par exemple, si on vous dit « ah ouais, alors vos personnages, les caracs vont de… non, les compétences vont de 1 à 10, bon, bah vous en avez 3 à 10, 5 à 9, et puis plein d'autres à 6 », on sait déjà quel type de personnage on va jouer. On va jouer quelqu'un de plutôt puissant. Donc déjà, on commence à s'orienter, on commence déjà à voir, en tant que créateur, un petit peu, que co-créateur, quel tour ça va prendre un petit peu. Le meneur de jeu va aussi souvent, quand il va présenter le jeu, dire ouais, c'est un jeu plutôt héroïque, c'est un jeu, bah, c'est un jeu où vous êtes plutôt en bas de l'échelle et vous allez galérer, etc. Donc on a la création de personnages, donc c'est quelque part ce que je viens de dire en fait avec les histoires de compétences, mais c'est aussi la possibilité d'inscrire dès maintenant, en fait, d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on fait d'habitude, notamment je pense à un jeu par exemple comme Burning Wheel, peut-être que quelques-uns connaissent, où il y a ce qu'on appelle des beliefs. Et les beliefs, en gros, c'est les objectifs du personnage. Ils sont définis en amont de la partie. Ils seront peut-être modifiés plus tard, mais en amont, chaque personnage a trois beliefs, c'est-à-dire trois trucs qu'il veut. Donc ça peut être par exemple, je veux être roi à la place du roi. Mais je veux aussi, je sais pas, bon, on va rester dans un truc un type Hamlet, tout ça, je veux aussi coucher avec ma mère. Un troisième truc, je veux aussi venger la mémoire de mon père. Voilà. Donc, il va y avoir ces trois objectifs. Là, quelque part, on commence déjà à avoir des lignes de force quand même assez balèzes, quoi. Donc les joueurs se seront mis d'accord. Ok, toi tu veux être le roi à la place du roi. Moi, je vais être plutôt ton âme damnée, celui qui va t'aider à y arriver. Mais en même temps, je te déteste, que je fais semblant d'être ton ami, mais en fait, ce que je veux, c'est te tuer aussi. Donc j'ai deux objectifs. Voilà. Donc on a déjà, on a quasiment, on n'a pas l'histoire qui est créée. On n'est pas encore dans le scénariste qui planifierait tout, mais on voit quand même des lignes de force extrêmement claires. Ça amène aussi à d'autres possibilités qui sont donc la création commune de l'univers. Donc, on commence à avoir pas mal de jeux qui font ça en début de campagne. On crée l'univers dans son ensemble et on commence à définir déjà des espèces de lignes directrices. Et aussi au dévoilement prématuré de l'intrigue qui va notamment de pair avec, par exemple, Burning Wheel. Si on définit des grands objectifs, c'est quand même bien aussi que le meneur de jeu arrive en disant, bon, écoutez, pour cette campagne, bah, nous, clairement, on a commencé à faire justement un Burning Wheel. J'ai dû dire, bon, bah, pour cette campagne, ça va être une quête. Et vous allez partir à la recherche d'une espèce de coupe sacrée pour sauver le roi mourant. Donc chacun a pu se positionner par rapport à ça, qui est quelque chose qu'en général on ne fait pas en jeu de rôle. Souvent en jeu de rôle, on se pose, on a créé des personnages. Si on a de la chance, on les a créés avec une espèce d'objectif commun. Si on n'en a pas, ben, on est tous dans une auberge en train d'attendre que quelqu'un vienne nous voir et nous confier le scénario du moment, sans savoir du tout si ça va nous intéresser, avec tous les problèmes que ça cause en général. Moi, enfin, voilà, j'ai des exemples comme ça où on crée des personnages qui vont dans un sens. Donc, par exemple, machin va aller vendre des pots dans telle ville. Truc y est pour, bah, parce qu'il est garde du corps de quelqu'un. Et puis, en chemin, il tombe sur un vieux qui se fait agresser. Et le type leur dit, aidez-moi, j'ai besoin d'aller, je sais pas moi, porter ce panier de pommes. J'exagère, mais c'était pas loin. À ma grand-mère, et l'autre me dire ah non, mais attends, moi j'ai mes pots à vendre, il y a mon village qui compte sur moi. Bidule va dire ah, mais je suis garde du corps, moi je suis pas garde de pommes. Et bon, ça va commencer, on va dire allez les gars, c'est le scénar, vous êtes gentil. Et puis bon, ça va commencer, on aura perdu je sais pas combien de temps à en discuter, à se prendre un petit peu le chou. Et le méta sera de toute façon pendant la partie parce que personne se sera mis d'accord, ou alors tout le monde la fermera. Mais bon, au bout d'un moment, diront c'est sympa comme jeu de rôle, mais j'avais pas trop l'impression de jouer à ce à quoi j'avais cru que j'allais jouer. Voilà. Du coup, ça, voilà, ça, on peut caser une partie du méta, du coup, de la discussion justement sur la fiction elle-même, avant la partie, donc avant quelque part le vrai moment de fiction. On a tendance à considérer que ce qui se passe avant est un peu moins intéressant, mais du coup, comme ça, on pourra se taire, hein, mettre la pédale douce un petit peu sur le méta ensuite. L'autre possibilité, bah, c'est du coup pendant. Comment est-ce qu'on se synchronise et se resynchronise en fait en permanence pendant la partie. Le classique, c'est le plan des joueurs. C'est-à-dire le moment, le fameux moment où tous les joueurs se mettent à discuter de qu'est-ce qu'ils vont faire ou de c'est quoi l'intrigue, qu'est-ce qu'ils ont compris. Ils se mettent d'un coup à parler, bon, soi-disant entre personnages, mais on se rend compte très rapidement que c'est plus le cas. On ne comprend plus trop qui parle vraiment. Ça. D'un coup, il y a des fois des moments de fiction qui ressortent. Et la possibilité d'espionnage par le MJ, c'était notamment donc, le dernier Voile d'Altaride qui me l'avait rappelé, le fait que le meneur de jeu, lui, il fait rien pour l'instant, du coup, il écoute. Il se dit, ok, alors vous trouvez que mon intrigue, elle n'est pas terrible et vous auriez préféré que ce soit machin, le grand méchant. Ok, je note, je vais peut-être modifier mon scénario pour que ce soit plus chouette. Vous êtes en train de discuter, vous vous dites que c'est vraiment tout pourri mon scénar. Bon, bah, je vais essayer de modifier deux, trois trucs, mais je suis quand même mal barré. Mais en tout cas, ils sont en train de parler de la fiction, quoi. Quoi qu'il arrive, ils parlent de la fiction à ce moment-là. Qui est quelque chose qui est d'ailleurs. Ces moments de discussion entre joueurs, c'est des trucs qui commencent à être assez mal vus dans pas mal de. Moi, j'avoue que j'en avais un peu marre à un moment de ça, parce que j'avais vraiment l'impression de plus faire de jeu de rôle, d'avoir juste une moitié du jeu qui était passé à discuter en dehors du jeu lui-même, quoi. Donc, c'est là où le méta pouvait être vu comme quelque chose de néfaste. Autre possibilité de synchronisation, on a la communication directe. Genre, hey, ça te dit que toi et moi, enfin nos deux persos, ils se bourrent la gueule et puis comme ça, après, ils vont en fait cambrioler le truc avant tout le monde, ce serait trop marrant. Par exemple. Donc ça peut marcher après tout, parler. Ou alors, ça peut, d'ailleurs, la communication directe peut être, ouais, moi je voyais pas trop notre relation comme ça, en fait, ça m'amuse moyen, donc si on pouvait changer. Alors, c'est quelque chose, j'en avais discuté un petit peu, notamment avec Eugénie. C'est quelque chose qu'on fait assez peu. On a tendance à pas trop oser parler de ce qu'on aimerait faire en fait en jeu de rôle. Du coup, on se tait. Du coup, on n'est pas très content. Du coup, des fois, ça finit en engueulade. Moi, ça m'est arrivé aussi d'utiliser la communication directe dans des cas un peu plus, on va dire, graves. C'est-à-dire, par exemple, un personnage fait une crasse à un autre. L'autre n'est pas content. Du coup, il va aller buter son animal familier qui a l'espèce de truc qui correspond, enfin, qui est le truc important du concept de l'autre. Et là, tu dis, bon, pause. Je vais pas t'envoyer les gardes qui t'arrêtent ou des trucs comme ça va prendre 10 plombes, ça va être ridicule. Moi, MJ, je te dis, t'es sûr de vouloir faire ça? T'as envie de pourrir l'ambiance du jeu? On pourrait peut-être, voilà. Il y a des fois la communication directe, c'est bien aussi pour pas que les choses partent dans tous les sens. On voit souvent dans les conseils justement quand les gens disent ah mon joueur il a fait ça pour la fiction, c'était quand même pas très drôle. On voit souvent dire ah mais tu lui envoies les flics, ah, tu lui montres les conséquences. Ok, mais en fait, du coup, le mec se retrouve avec trois séances entières à gérer les conséquences des flics qui arrivent, là où peut-être que ça l'embête et que du coup, il a pas envie d'attacher 15 fois plus d'importance à un truc qui l'ennuyait déjà au départ. On a la communication voilée, c'est-à-dire c'est la même chose, mais on la déguise un peu pour pas que ça fasse trop méta. C'est l'exemple que j'aurais, c'est, alors je sais pas s'il y a beaucoup qui sont familiers du jeu Apocalypse World, mais ce jeu-là introduit le principe des questions et on pourrait imaginer la question en façon communication directe. Et est-ce que tu veux que ton perso il ait une relation avec machin? Ouais, c'est quoi ton perso c'est quoi son lien avec truc à ton perso? Non, à Apocalypse World, ils disent faut que vous parliez au joueur comme si c'était son personnage. Donc Jack, qu'est-ce qui t'a fait Bobby pour que tu lui en veuilles comme ça? Et là, quelque part, on commence déjà un petit peu à parler de la fiction. On n'est pas complètement dans la fiction. On dit pas Jack, il y a Bobby qui arrive et qui te dit ouais, salaud, tu m'as piqué mon fric, etc. On est encore en train de parler de la fiction sans y être complètement, mais on déguise ça un petit peu quand même pour faire passer ça un petit peu mieux et donner le sentiment qu'on est encore quelque part quand même dans le jeu, dans la fiction et qu'on n'en est pas complètement sorti. L'autre élément possible, c'est encore plus subtil, c'est ce que j'appelle du coup le sous-titrage métafictionnel, sous-titrage pour l'idée qu'on fait passer le truc un petit peu en contrebande, c'est-à-dire que on parle comme si on était toujours dans la fiction normale, mais on essaye de faire passer un message en douce. C'est notamment quelque chose qui est a priori assez important dans les jeux plus inspirés par le théâtre d'improvisation, où la discussion hors jeu est entre guillemets interdite. Mais où on essaye de faire passer quelque chose. J'ai un exemple du coup d'expérience qui n'a pas du tout marché, signe que du coup la subtilité des fois c'est risqué. C'est je joue un voleur. Or bon, le concept du voleur, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire le concept de la vérité du personnage, c'est-à-dire qu'il y a un moment où le concept du personnage, si on commence à trop le tordre, bah, on le pète et il reste plus grand-chose. Or le voleur, le principe du voleur, c'est quand même qu'il est attiré par l'appât du gain, qu'il était un peu lâche, etc. Et il se fait tomber dessus par deux nains qui lui proposent une quête un peu Bilbo, façon Bilbo, qui dit bon bah tu vas nous aider à voler un truc, on va te payer, mais bon bah voilà, on a plein d'or, t'inquiète pas. Et puis on va dans une auberge, on commence à dormir. Le voleur il se dit ouais, alors, entre aller affronter un monstre et piller deux nains qui ronflent dans la pièce d'à côté, j'ai un peu envie de piller les nains, mais je sais moi joueur que si je fais ça, je pourris la séance, les deux joueurs vont être pas contents, ils vont me poursuivre, enfin leurs personnages vont me poursuivre. Il y a un moment ou un autre où soit bah, je réussis à m'enfuir, le scénario est fini. Ou en tout cas, je fais un nouveau perso, j'en sais rien, les deux, ils peuvent plus jouer ensemble. Soit ils me rattrapent, et là, ils vont être pas contents du tout, ils vont me tabasser, etc. Et bon, mon perso, il aura plus trop envie de les aider, et eux auront peut-être plus envie de m'embaucher. Donc, ce que je fais, c'est que je décris le truc en disant, le voleur commence à aller dans le couloir, il y a le plancher qui grince, etc. J'insiste sur des éléments comme ça pour bien dire, vous pouvez m'attraper si vous voulez. Et avec implicite, je vais être fair play, c'est-à-dire que si les nains sortent et essayent de m'attraper, je vais pas dire ah non, je fais un jet, je vais essayer de me battre, je vais leur mettre des coups, parce que là, du coup, ils comprendraient plus. Mais c'est l'idée, s'ils me chopent, bon bah ils me chopent, ils m'attrapent, le voleur il fait oh, je suis pas content, mais bon, dans les faits, il va les suivre. Donc le sous-titrage métafictionnel, c'est aussi une façon, voilà, de continuer de rester dans la fiction, mais de faire passer des trucs un petit peu en douce, soit par du verbal, mais aussi peut-être par du non-verbal. Un autre exemple, ça peut passer par une dispute, c'est-à-dire qu'on sait des fois que bah, voilà, des personnages se disputent, mais des fois c'est un peu dur de faire la différence entre bah, le personnage et le joueur. Des fois, il est possible que l'autre joueur se dise, mais pourquoi il m'engueule? Est-ce que c'est son personnage qui n'est pas content parce que j'ai fait ça? Ou est-ce que c'est le joueur qui me gueule dessus par l'intermédiaire de son personnage parce qu'en fait, il n'est pas content de ce que j'ai fait? Bon, bah, généralement, ça va passer par un sourire, un truc. Il y a un moment, un petit rire après, une fois le coup de gueulante, pour bien montrer que le joueur, lui, il rigole et pas avec le personnage, lui, il n'est pas content du tout. Mais quand même, quoi, qu'il ne faut pas non plus le prendre personnellement. Voilà, donc ça me paraît un élément assez crucial en fait, qui doit exister en permanence, mais qui est plus subtil du coup qu'on remarque pas forcément. La synchronisation, ça peut être aussi en fait la mécanique de jeu elle-même. Tout simplement, par exemple, vous faites une description, un roleplay formidable, une grande tirade émouvante, le meneur de jeu vous dit bah tiens, je te file un plus 2. Voilà, c'est un signe clairement méta. Voilà, j'aime bien ta tirade, j'aime bien que ça aille dans ce sens-là. On casse un petit peu effectivement l'immersion parce qu'on fait appel aux mécaniques, mais au moins on sait que le MJ il est content ou que d'autres personnes sont contentes. Par exemple, dans Prosopopée, le jeu de Frédéric Sintès, on donne des jetons quand on aime la description d'un autre, donc on l'encourage quelque part à continuer dans ce sens-là. Si on lui en donne pas, c'est qu'a priori il vaut mieux qu'il s'arrête dans là. C'est pareil dans Shade. C'est Shade ou Shades? Shades, dont l'auteur, j'ai oublié son nom, Victor Gisberg, où on donne en fait quelque part, on donne des jetons à l'autre quand, comment dire, l'élément de friction entre deux personnages nous paraît intéressant et qu'on a envie de travailler cet élément-là. Donc c'est un moyen de communiquer avec l'autre, de lui dire ah ça me plaît, j'ai envie qu'on travaille là-dessus, qu'on voit si c'est vrai, si on s'est pas menti, etc. Si on s'engueule, si on peut pas s'engueuler un peu plus, quoi. Et enfin, donc il y a la blague métafictionnelle sous une certaine forme. Donc je disais, c'est la blague qui a un rapport avec la fiction. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, par exemple, le « Ah, mais ce serait tellement naze si derrière cette porte, il y avait en fait un gros piège. Le meneur, ouais, bon, ok, il n'y a pas de piège, ni vu ni connu. Ou ouais, t'imagines si c'était machin, le traître. Voilà, ceux qui ont lu le Da Vinci Code, par exemple, verront ce que ça veut dire. Peut-être que si le Da Vinci Code avait été un jeu de rôle, bah ouais, il aurait changé un petit peu sa fin. Voilà pour la synchronisation. J'ai oublié de rajouter éventuellement le méta-jeu. Alors ça, c'est plus rare. Je crois que c'était Robin Lawes, l'auteur américain, qui en avait parlé, mais j'ai incapable de retrouver la référence, qui disait par exemple... Non, c'est dans la prospective, pardon. Autant pour moi. Je me suis un petit peu avancé. Alors, je vais revenir justement sur le méta-jeu. Donc la prospective, bon, j'ai choisi un mot un petit peu compliqué, mais on pourrait appeler ça plutôt peut-être la projection, c'est-à-dire l'idée que on peut se projeter aussi dans l'avenir de la partie. C'est ce qu'on fait normalement dans n'importe quelle fiction. Quand vous regardez un film, quand vous lisez un roman, vous élaborez des scénarios basés sur les autres fictions que vous avez vues ou lues, et vous inférez en fait la suite. Vous dites, ah ouais, d'accord, ça va être ça. Ah non, en fait, il m'a devancé, ça va être ça. C'est d'ailleurs ce sur quoi jouent les bons scénarios, entre guillemets, c'est-à-dire qui vous font croire un truc, puis d'un coup ils vous déstabilisent. Alors des fois ils vous déstabilisent avec un truc complètement pourri, dans ce cas c'est pas des bons scénarios, mais voilà, c'est l'idée, on joue avec les attentes du public et on les désamorce. Et ben en jeu de rôle on fait pareil, on se projette dans l'avenir et on fait nos actes en conséquence. Donc on peut faire des actes pour se prémunir, mais on peut aussi faire des actes en disant oh, ça va être trop cool si mon personnage il descend dans la cave, il va y avoir un gros monstre, il va le buter, ça va être trop marrant comme dans toutes mes parties de Cthulhu, ou des trucs comme ça quoi. Donc, je vais passer directement au méta-jeu et je reviendrai sur la blague. Les méta-jeux, du coup, c'est... Donc, Robin Lawes disait que, par exemple, contrairement à beaucoup de gens qui disent « Voilà, surtout pas, Donjons et Dragons, vous ne filez pas le manuel des monstres aux joueurs parce que ils vont tout savoir, ils vont connaître les caractéristiques, et puis après, du coup, ils vont jouer en fonction et tout ça. » Robin Lawes, je crois que c'est lui, disait « Non, vous leur filez. Parce que, de toute façon, en tant que meneur de jeu, bon, ok, vous êtes peut-être doué pour décrire l'horreur d'un monstre, mais au final... Votre description, elle sera sympa, mais si les joueurs ont vu que derrière le beholder, il a un œil qui est capable de désintégrer, un autre qui est capable de paralyser, un autre de machin, rien qu'avec votre description du truc, ils vont se dire, attends, mais ce serait pas un beholder, putain, on a lu, ben, ça y est, j'ai dit un gros mot. On a lu la description hier, mais c'est monstrueux, et ils vont commencer à avoir peur, et du coup, ils vont se projeter un petit peu dans ce qui va leur arriver, et du coup, ils vont expérimenter quelque part des émotions que leurs personnages sont censés expérimenter sans que le meneur ait besoin de les manipuler ou quoi que ce soit. Bon, il les manipule un peu concrètement, mais pas violemment. Voilà, ça c'est une possibilité d'utiliser le méta-jeu. Ça m'était arrivé, j'ai un exemple qui était sur Warhammer. Donc je sais pas s'il y en a qui connaissent un peu Warhammer. Warhammer, il y a un système de carrière. Donc on commence ratier, pâtre, des trucs comme ça. Et on finit grand brigand, enfin bandit de grand chemin et tout ça. Et il y a la carrière ultime qui est l'assassin. L'assassin, c'est une espèce de ninja qui fait 40 attaques par tour avec du poison et tout ça. Donc c'est le truc, on sait que c'est une espèce d'Eldorado de la carrière, si on cherche l'optimisation. Et dans l'ennemi intérieur, on jouait tous du coup un pâtre, un bûcheron, un chasseur de rats, un pilleur de tombe, donc le personnage Warhammer classique, et on voit un mec qui est attablé à un comptoir, enfin attablé à un comptoir, adossé à un comptoir et qui a l'air louche, un peu l'air méchant et qui regarde les autres d'un regard torve. Et on dit c'est qui ce type-là? Et donc il y a un personnage dans le joueur qui nous dit ah lui c'est Hans, c'est un assassin. Et là en fait. Ouh, un assassin. Ouais, ok, on va pas le mettre. Et puis lui est venu nous voir, il a commencé à nous chercher. Et là, on n'a pas eu le réflexe typique du joueur de jeu de rôle qui est de bon, ok, tu nous cherches, on te défonce, on te bute, ensuite la garde arrive, etc. Donc on en revient sur plusieurs. On dit, oh là, c'est un assassin, pardon monsieur. Ah oui, vous m'avez marché sur les pieds, je suis vraiment désolé d'avoir mis mon pied sous le vôtre, etc. Et puis après, on a appris que c'était pas du tout un assassin réel, c'était un pauvre spadassin de base. Mais le simple fait qu'il y ait eu cette espèce d'effet méta, en fait, on était complètement dans nos personnages terrorisés par l'espèce de brute. Voilà. On a donc la blague métafictionnelle, du coup, à nouveau, qui peut donc, en fait, servir à se projeter, effectivement, qui nous permet de nous projeter. Alors, ça a une utilité, la blague métafictionnelle, c'est-à-dire qu'on a plein d'idées quand on fait une partie de jeu de rôle, ça bouillonne, on a plein de trucs, et du coup, la blague, c'est une façon aussi de se débarrasser du trop-plein d'idées. Faire « Ah oui, t'imagines si jamais, comme je disais, derrière la porte, il y a un piège, et puis il y a le piège, en fait, et là, tout le monde est mort de rire, parce que c'est exactement ce qu'on imaginait, ou au contraire, c'est un piège un petit peu différent de ce qu'on imaginait, donc on est deux fois plus mort de rire que si on s'était juste pris un piège et qu'on n'avait pas commencé un petit peu à se projeter, en fait, dans la suite. » Et enfin, on a alors un cas très particulier, parce que il faut bien reconnaître que c'est la projection méta, c'est un truc que... me semble assez délicat, balbutiant, compliqué. Je termine du coup sur l'horreur prospective, qui est un truc que j'ai trouvé dans deux jeux, en fait. Le premier, c'est Poltergeist de Vincent Baker. Et le deuxième, c'est Bluebird's Bride. Alors, je vous dirai bien les auteurs, les autrices, en fait, parce qu'elles sont nombreuses, mais Kelly, Marissa, Whitney Beltran et Sarah Richardson, qui sont des jeux utilisant le système d'Apocalypse World. Donc, je vais vous donner un premier exemple, du coup, avec Poltergeist. Alors, Poltergeist, c'est... Alors, j'aurais peut-être pas dû mettre l'exemple tout de suite avant d'expliquer ce qu'est Poltergeist. Poltergeist, donc, c'est un jeu qui se joue avec deux livrets. Un pour le joueur, un pour le meneur de jeu. Il y a que deux personnes. Dans ce livret, donc, le livret vous dit, en gros, ce que vous allez devoir dire à l'autre. Et l'autre vous dit ensuite, bah, rends-toi à tel paragraphe, un peu la façon de livre dont vous êtes le héros. Donc, il y a une espèce de mélange. La partie, c'est déjà à moitié ce qui est dans le livre et c'est à moitié ce qui est dit. Et dans ce livre-là, il y a des exemples, justement, d'horreur, justement, prospective de projection dans l'horreur. Donc, par exemple, le joueur, dans son livret, à un moment, peut tomber sur ça. Qu'est-ce que vous préférez que le fantôme ne fasse pas? Il me regarde, il me tend les bras, il me parle, il s'immobilise. Ensuite, le joueur, une fois qu'il a réfléchi à ça, il s'est projeté un petit peu dans ce qu'il voudrait surtout pas. Il se dit, ah, qu'est-ce qui me ferait le plus peur? Il essaie de s'imaginer la scène telle qu'elle va se passer. Tire une carte, ou plusieurs cartes, je ne sais plus exactement comment ça marche. Et s'il rate, eh ben, c'est exactement ce qui se passe. Et du coup, il annonce au meneur de jeu, ah bah voilà ce qui m'arrive, le fantôme fait ça. Et du coup, l'idée, je pense, c'est que c'est d'autant plus flippant que ça vient du joueur lui-même qui s'est projeté dans ce qu'il voudrait surtout pas qu'il arrive et qui a donné ces armes-là, en fait, au meneur de jeu pour les retourner contre lui. Je l'ai fait, moi, dans mon jeu Perdu sous la pluie de façon indirecte, c'est-à-dire que au tout début de la création de personnage, on dit, quel est le cauchemar de l'enfant? Et le cauchemar de l'enfant va être utilisé par les autres joueurs pour lui être mis dans la tronche et lui faire peur. Et ensuite, ce cauchemar, une fois qu'il aura été créé parce que c'est un meneur tournant, il va être réapproprié par un autre joueur qui va vous le remettre dans la tronche alors que c'est vous-même qui l'avez créé. Puis un autre va le reprendre et vous le remettre, et ainsi de suite. Et il y a un effet, honnêtement, alors je ne sais pas si c'est de l'autoconviction ou j'en sais rien, mais en tout cas, on a pu constater qu'il y avait un vrai effet à ça, à voir sa propre peur, en fait, quelque part, parce qu'on y met de nous-mêmes, se retourner contre nous et être réutilisé, et être ainsi renforcé. Dans Bluebird's Bride, c'est un peu le même principe. Dans Bluebird's Bride, vous jouez la fiancée de Barbe Bleue, qui explore le manoir de Barbe Bleue, du coup, pour savoir si son mari est bel et bien un horrible salaud qui a tué ses précédentes épouses, ou si c'est quelqu'un qui est injustement victime des préjugés de l'époque. Et du coup, dans Bluebird's Bride, vous avez notamment cette action. Lorsque vous tremblez de peur, donnez un nom à ce que vous ne voudriez surtout pas qu'il arrive, et le MJ vous dira en quoi les choses sont pires que ce que vous craignez. Donc vous lui donnez un élément, et lui, il doit en plus surenchérir. Mais surenchérir sur les bases que vous lui avez données. Bon, après garder l'anneau, tout ça c'est les complexions, les complexités du jeu. Et voilà, après il se passe en plus des trucs, donc la perversion pardon de la chose vous infecte. Ensuite la perversion vous tire entre ses griffes ou d'un coup ce que vous avez créé vous se met à vous parler à vous, non pas le personnage mais à vous à l'intérieur parce qu'on joue en fait les différentes psychés en fait de la femme de Barbe Bleue. C'est-à-dire qu'on joue à plusieurs dans une même tête. Et des espèces de personnalités comme ça qui se partagent la fiancée. J'avais mis un dernier exemple, un petit peu dans le même genre, toujours dans Bluebird Bride, lorsque vous faites le point sur une situation tendue, vous pouvez poser une question au meneur. Qu'est-ce qui me suit depuis les ombres? Quels pièges ont été disposés à mon intention? Qu'est-ce que cet endroit exige de moi? Et quelle horreur me cache-t-on? Donc il y a déjà quelque part le joueur qui choisit parmi ces quatre options ce qu'il voudrait le plus subir en un sens. Et il y a vraiment cette idée de contrairement à ça fait le lien un petit peu avec la conférence suivante, c'est il y a vraiment l'idée de toi joueur, qu'est-ce que tu as envie de prendre dans la tronche, quoi. Et au lieu du simple moi joueur, je dois me défendre contre tout ce que le MJ a envie de me mettre dans la tronche, je suis pas censé le vouloir, je suis censé m'y opposer de toutes mes forces, mettre les jets de dés, etc. On voit souvent que quand on laisse au joueur la possibilité de choisir, je viens donc ici nous parler de mince, comment ça s'appelait déjà le jeu de John Wick de Houses of the Blooded, où celui qui réussit le jet de dés en fait détermine ce qui se passe. Or, parfois, les gens qui déterminent ce qui se passe bah, vont s'en mettre eux-mêmes, vont se mettre eux-mêmes des bâtons dans les roues parce qu'ils trouvent ça plus intéressant, parce que ça correspond à leur vision en fait quelque part du scénario entre guillemets de la ligne fictionnelle en fait. Au lieu de simplement dire, ah oh, ben je triomphe de tout, ah oh, ben, je suis parfait, ah oh, ben j'ai réussi, qui serait plutôt encouragé par un type de jeu de rôle plus habituel où là c'est le meneur qui choisit ce que vous subissez et où vous devez lutter contre ça. Voilà, donc en conclusion, bon, toujours est-il que c'est toujours pareil, le méta, on peut pas complètement le séparer de la fiction elle-même, mais ça me paraît, il n'est pas toujours présent qu'on se pose la question ou pas, peu importe, mais ça me paraissait intéressant de revenir là-dessus justement pour explorer en quoi. Ça pouvait être non pas uniquement un problème, mais aussi une solution à des problèmes liés au jeu de rôle. Voilà.
Enfin. J'avais une petite question. C'était à un moment où tu parles de la plus, donc qu'en tant que rôliste, on est spectateur et scénariste en même temps. Et dis-moi si j'ai bien compris ou pas. Tu parles beaucoup finalement du jeu méta qui est émis par les scénaristes, mais est-ce qu'on peut admettre et que en fait que quand tu es en position de spectateur, tu peux avoir tendance à un peu étouffer ce méta pour rester immergé? Mais en même temps, il me semble que plus tard, tu cites un exemple où il y a une joueuse qui dit c'est trop bien ce que tu as fait, où il y a des moments, ça, tu n'en parles pas, mais je suppose que tu. Des fois, on va dire ah, bah, c'est comme dans tel film. Donc, il y a. Est-ce que tu penses quand même qu'il y a des commentaires méta qui sont vraiment du domaine de la joueuse spectatrice, en fait?
J'avais pas pensé à ça, mais effectivement, de toute façon, c'est pas compliqué quand on regarde une série chez soi, par exemple. On passe son temps à parler de la série en disant ah punaise quel salaud ou des trucs comme ça. Oui, à part Eugénie apparemment. Mais effectivement, il y a du commentaire qui relève peut-être plus
Pour toi,
du
quel rapport
spectateur.
avec l'immersion quand on fait ça? Est-ce qu'on casse une certaine immersion pour en gagner une autre?
Ben, le truc, c'est que même, en fait, finalement, dans ce que je disais au départ, on se rend compte que même en tant que spectateur, lecteur, etc., on est aussi en position un peu ambivalente. Et que, alors, est-ce que c'est une tradition occidentale depuis l'Antiquité grecque, ou est-ce que c'est finalement un réflexe humain? Là, pour le coup, ça dépasse mes capacités. Mais on a aussi quelque part un petit peu un besoin, un petit peu de sortir un peu de l'immersion, même en tant que spectateur, même en tant que non-créateur en quelque sorte. Même si on pourrait se poser la question, est-ce qu'on est non-créateur quand on est spectateur? Mais bon, là, j'avais choisi de les séparer vraiment en deux, même si dans les faits, on peut pas les séparer complètement de toute façon. Mais je pense qu'effectivement. Même en tant que spectateur, on peut avoir besoin de pas être complètement immergé.
Est-ce qu'en jeu de rôle, on a des effets, puis après je me tais, toujours. Est-ce qu'on a des effets comme dans le théâtre de Polichinelle, où en fait le marionnettiste invite le public à huer le méchant ou à prévenir Est-ce qu'on a écrit en ça en jeu de rôle?
Ah ouais, je pense quand même. Quand quelqu'un. Bah, l'exemple qui me vient bateau, c'est celui du lancer de dés, quoi, où tout le monde est en train de regarder, en train de dire vas-y. Quand les fameux coups où le meneur de jeu se croit malin en disant ok, sur 20, tu réussis avec un des 20, quoi. Et tout le monde regarde, genre, est-ce qu'il va faire ce truc? Et tout le monde dit allez, allez, ouais, c'est ça, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu plus rare que dans d'autres formes. Après, théâtre de Polichinelle, c'est quand même un peu particulier. J'imagine, peut-être faudrait. J'ai pas participé aux projections du Rocky Horror Picture Show. Peut-être qu'il y a des trucs comme ça aussi dans le genre. Peut-être. Après. Mais après, même si on le dit pas à voix haute, on le ressent un peu. Genre un film d'horreur où on voit la victime, c'est souvent une victime, qui s'avance toute seule et on sait que il y a le tueur qui est pas loin. On avait lui dire non, t'y vas pas, c'est stupide, tu vas mourir. Alors, normalement, si on est bien éduqué, on le gueule pas dans le cinéma, mais après, moi, j'avais des gens dans Star Wars 7 qui applaudissaient à chaque fois qu'il y avait une référence à Star Wars. Bon, ça m'énervait, mais bon, il y a comme quoi ça arrive aussi au cinéma des fois.
D'autres questions?
Ouais. Moi, je me pose des questions sur ce que tu disais sur la communication voilée, sur le. Et en particulier le lien avec l'Europe prospective que tu présentais, c'est-à-dire le fait, si j'ai bien compris, de mentionner ce qui te fait peur pour que ce soit utilisé dans le jeu derrière. Et ça, tu l'incluais dans le méta pendant la partie.
Ouais.
Et je me posais pas mal de questions sur le fait que, d'abord, ça peut être inclus avant la partie.
Ouais.
Et que ça peut s'étendre à d'autres choses qui ne sont pas des choses horribles. Par exemple, en choisissant dans des jeux qui présentent des avantages et défauts, en choisissant un défaut, tu communiques au reste de la table que tu as envie de jouer sur ce défaut.
Ouais.
En choisissant une compétence, tu veux que ça intervienne, etc.
Si tu as de la chance, parce que moi j'ai des contre-exemples assez.
Comme tu le disais, ça voilà, pas toujours.
Si tu as 10 défauts à 1, tu sais très bien que le joueur t'a pas envoyé le message qu'il voulait tous les jouer, mais qu'il voulait 10 points et qu'il avait surtout pas envie d'en jouer un seul. Mais bon, oui, effectivement.
Et si ça correspond à ce...
Ouais. Alors, est-ce que ça correspond après c'est une bonne question, parce que de toute façon, au final, tout ce qui est préparé en amont, de toute façon, c'est en prévision de ce qui va être fait pendant la partie. Là, c'est vrai que du coup, j'ai séparé en disant que tout ce qui touchait, par exemple, à Poltergeist, etc., c'était pendant la partie. Du coup, c'est pour ça que je l'ai séparé du truc. Mais dans les faits, effectivement, on peut tout comme je disais, pour Perdu sous la pluie, par exemple, c'est clairement de la communication voilée en début. On a une espèce de questionnaire qui est censé immerger, donc on n'est pas dans le qu'est-ce que vous voudriez dans la partie, s'il vous plaît, ami joueur. C'est plutôt qu'est-ce que de quoi ton personnage il a peur, qu'est-ce qu'il fait quand il a peur, pourquoi il croit qu'on l'a abandonné. Et donc voilà, c'est un peu camouflé quand même derrière. C'est pas achète le défaut. Je suis poursuivi par un croque-mitaine à 5 points, qui sont déjà plus directs quoi, comme communication.
Je pense aussi à certains playbooks de variantes d'Apocalypse War, voire peut-être même dans le jeu de base, mais je ne me souviens plus, dans lequel on te dit « joue cet archétype si tu veux ça, ça, ça ».
Ouais. Oui, bah, j'ai pas pensé à en parler, mais le simple fait que quelqu'un prenne un personnage de guerrier, t'envoie clairement le message qu'il veut qu'il y ait des combats. Maintenant, c'est pas aussi clair que ça, parce que peut-être que est-ce qu'il veut que son guerrier soit invincible et brille en permanence? Est-ce qu'il veut que son guerrier soit un vieux sur la fin qui cherche justement son dernier combat et qu'on peut plus tout gagner? Ou est-ce que il veut au contraire un type qui a pas de chance mais qui s'en sort toujours, on sait pas trop comment? Enfin, il y a tout un tas comme ça de trucs qu'il va falloir affiner soit en jeu, soit avec d'autres éléments dans la feuille de perso, soit on rétrécit peu à peu le champ pour aller à peu près dans la bonne direction. Puis ensuite on tente et puis des fois ça marche, des fois pas. Oui.
Parler de méta, en fait, la question elle va être plus large. Tu as parlé avant et pendant, est-ce que c'est possible d'avoir du méta après? Ou est-ce que c'est forcément un truc sur une... C'est du avant d'une potentielle future partie, ou c'est déjà plus dans la fiction de la partie, ou...
Ah bah c'est... Ouais, j'imagine que a priori, bah déjà, parler de la fiction, c'est déjà faire du méta. Donc quand à la fin de la partie on dit ah c'était trop cool et à tel moment t'as fait ça, etc., c'est vrai que j'ai pas pensé à cet élément évident qui est effectivement on fait du méta à la fin de la partie parce qu'on en parle encore, enfin c'est ce qui plaît aussi en jeu de rôle, quoi.
Voilà,
même s'il y a pas de partie derrière, déjà rien que d'en parler, et après effectivement en plus on peut réutiliser ça pour des parties suivantes comme élément, bah, le fameux ah ouais, j'ai trouvé ça trop nul quand machin il a fait ça, ou j'ai trouvé ça génial que ce soit lui en fait le traître, j'adore ce personnage. Lui, il va comprendre que ok, je vais le réutiliser parce que ça a l'air de leur plaire, ou là je vais peut-être mettre la pédale douce sur les pièges derrière les portes, ou des trucs comme ça quoi. Donc oui, oui, totalement en fait.
Est-ce que dans les différentes parties, il y aurait un moyen justement de limiter la méta, comme par exemple l'installation de certaines, par exemple, règles personnelles entre les joueurs, ou alors par exemple avec la cadence du MJ, par exemple ne les laissant pas justement à parler entre eux et en imposant un rythme.
Ah bah clairement, bah déjà la cadence, oui, a priori ça doit marcher. Je suis pas très fan, j'avoue personnellement, mais oui, ça doit a priori, ou envoyer tout le temps des trucs, des rebondissements et tout ça. Ou établir en amont, dire les gars, les discussions, vous êtes des héros, arrêtez de discuter pendant des plombes à chaque fois, et allez-y, il se passera des trucs, je vous promets que je vous punirai pas pour avoir pas fait de plan super précis. Il y a cette possibilité. L'autre possibilité, c'est de jouer en mode, en quelque sorte, théâtre d'improvisation. C'est ce que fait notamment un peu Thomas quand même dans certains de ses jeux, qui essaye de diminuer le méta au maximum. C'est-à-dire que ce qui est vrai, c'est ce qui est dit. Donc à partir du moment où c'est dit, bah les autres n'ont pas à revenir dessus, donc on joue un petit peu sans filet quoi. Donc on se lance, il y en a un qui va dire un truc, bah on rebondit dessus. On peut plus lui dire ah non je suis pas d'accord, on doit dire ok et il se passe ça, etc. Et donc rester totalement en fait, tout le monde du coup là c'est plus un seul MJ qui impose un débit, mais c'est tout le monde qui quelque part est dans le débit permanent en fait en un sens et pas avec interdiction d'en parler à côté en fait. Et là c'est là où devient hyper important l'histoire du méta discret. Juste par la gestuelle, non verbale, etc. Pour éviter, par contre, qu'il y ait un moment où en fait les gens s'engueulent parce que à force de non-dit, ils ne soient pas compris du tout et qu'ils se retrouvent à accepter des trucs qu'ils aiment pas, quoi. Et des fois, une des solutions aussi quand les gens aiment pas un truc, c'est ils en parlent pas trop. Du coup, le truc finit un peu sur le côté, puis disparaît et on l'oublie complètement. Donc, un genre, j'ai vu ça notamment à Perdu sous la pluie, qui se base un petit peu sur ce côté. On discute un peu en roulis, mais avec beaucoup plus de méta, par contre. Mais qui se voulait justement un jeu sans méta un petit peu, parce que c'était une période où j'avais envie de virer tout le méta, justement. Et où, bah, quand quelqu'un crée un monstre de toute pièce qui ressemble pas à grand chose, ou il y avait déjà 3 monstres avant, 4 monstres ça fait beaucoup, bah, on se rend compte que plus personne ne le reprend et le monstre commence un petit peu à être oublié. Et puis, on le baigne avec le reste des ordures discrètement, quoi.
Ouais, totalement. Ah, peut-être t'as aussi, pour limiter le méta, et ce que j'appelle les mécanique invisible, c'est-à-dire utiliser soit tu as parce que tout ce qui est mécanique de résolution chiffrée ou avec des dés, tout c'est visible,
oui.
Méta en soi-même.
Oui, c'est vrai que j'ai pas.
Soit tu peux soit masquer tout ça, par exemple le jeu hurlement où en fait tu n'as pas à taper des personnages, le maître de jeu il fait tous les jets de dés derrière le paravent, c'est lui qui connaît les stats de ton personnage. Dans Perdu sous la pluie,
oui, bah, c'était fait exprès quoi.
Par des jetons, et du coup, un passé de jetons c'est moins audible qu'un lancé de dés.
Et ça passait par l'idée que donc c'était inspiré de Perfect, un peu, qui m'avait séduit pour ça, le côté tu parles en fait et tu prends un jeton pour manifester le fait que ce que tu as décrit en fait te donne un bonus ou fait un malus à l'autre. Et donc, ça, c'est censé être très discret. C'est discret à condition qu'on n'ait pas à demander la permission aussi. Il ne faut pas dire « Est-ce que j'ai le droit, MJ, de prendre un jeton ?» Là, ça fout en l'air le truc. Donc, il faut une confiance de « Ok, à partir du moment où tu as décrit ça, il n'y a pas de problème, je te fais confiance. » Et du coup, ça devient des espèces comme ça d'échanges de jetons ou trucs assez discrets. Mais on pourrait imaginer, en fait, n'importe quel jeu de rôle. C'est un peu une espèce d'idéal de beaucoup de jeux de rôle, l'idée que tous les joueurs connaissent parfaitement les règles. Et du coup, bon, même s'il y aura toujours des gens CD et tout ça, du coup, il n'y a pas de discussion. Il y a « Ok, donc hop, on fait les trucs comme ça. »
Des mécaniques qui sont inaudibles parce que sont entièrement fictionnelles.
Mmh.
Soit parce que si tu veux réussir quelque chose, bah c'est juste qu'il y aura un prix à payer.
Ouais.
Ou parce que les enjeux de la narration ne sont pas autour de la résolution. Donc du coup, quand il y a une résolution à faire, en fait, on accepte ce qui a été dit. C'est pas de mécanique tranchée.
Oui, ou tous les jeux. Déjà, même avant ça, un peu moins avancé que ce que tu décris, les jeux sans dés. Où souvent le meneur de jeu a son chiffre, il a les chiffres des joueurs et il répond immédiatement ce qui se passe sans passer par une mécanique visible.
En fait, ouais. Il connaît la feuille des personnages, il a C'est ça. Il n'y a pas besoin de dire, bah, toi, t'as 6, le méchant, il a 10, c'est le méchant qui...
J'imagine que c'est l'idéal derrière, justement, qui est généralement voulu par les auteurs de ce genre de jeu, que, qui se passe de... t'as combien ? Ouais, ok, bon, on compare. C'est, surtout que ces jeux-là, souvent... Ouais, si, il y a quand même souvent, ils ajoutent des petits modificateurs, des machins, mais bon, c'est quand même souvent censé être... Le meneur de jeu est censé jouer un peu le rôle de... Je crois que c'est Jérôme Larré qui parle de boîte noire. Il joue un petit peu l'interface entre le joueur et la fiction, comme une machine, quoi, qui fait tous les calculs dans son coin, tout comme dans un jeu vidéo. On n'a pas d'un coup le code qui apparaît pour nous expliquer que ce qui est en train de se passer, ça correspond à variable A supérieure, etc., quoi. Mais bon, ça fait peser beaucoup de choses, des fois, sur le meneur de jeu, qui doit avoir des paramètres, des trucs, gérer la fiction. Ouais. Ou alors, après, il faudrait faire apparaître des chiffres sur des diodes ou des trucs, hein, pour les sans parler, mais bon, ça reste quand même un élément, malgré tout.
Ok, donc, merci encore une fois.
Mais, c'est moi, merci beaucoup.
Et,